Chapitre 5 Œil rouge. En sortant de la forêt, j'embrassai d'un seul coup d'œil le panorama qui se présentait devant moi. Je me trouvais au bord d'un grand espace vide, limité d'un côté par de hautes falaises et de l'autre par le fleuve. La berge descendait en pente brusque vers le cours d'eau, mais en plusieurs endroits, là où s'étaient produits des affaissements, on distinguait les sentiers qu'empruntaient les habitants des cavernes pour aller boire dans le courant. Le hasard m'avait conduit vers le lieu où habitait notre horde, ce que je pouvais appeler notre village, en donnant à ce terme un sens un peu large. Ma mère, le jaseur et moi, ainsi que quelques autres individus très primitifs, nous résidions dans les environs. Bien que vivant éloignés du groupe principal, nous faisions partie de la même horde. Je dois ajouter que la distance qui nous séparait était insignifiante. J'avais mis une semaine à la parcourir en errant à droite et à gauche. Si je m'étais rendu directement au village, j'aurais couvert le chemin en moins d'une heure. Je débouchais donc de la forêt et découvris les cavernes dans la falaise, l'espace libre au bord du fleuve et les sentiers menant jusqu'à l'eau. Au milieu de l'espace libre, je aperçus plusieurs de mes semblables. Pendant toute une semaine, j'avais vagabondé seul dans les bois, sans rencontrer aucun être de ma rêve race, en proie à la terreur ou à la désolation. Aussi, jugez de ma joie lorsque je découvris ce groupe d'humains. Prestement, je courus vers eux. Alors il se produisit un étrange phénomène. L'un d'eux me vit et poussa un cri d'alarme. Aussitôt, avec les hurlements de frayeur panique, les autres se dispersèrent. Bondissant et escaladant les rochers, ils s'engouffrèrent dans les cavernes et disparurent tous, sauf un petit bébé, qui dans le sauve-qui-peut général avait été déposé au pied de la falaise. Il pleurnichait lamentablement. Sa mère sortit d'une caverne, il s'élança vers elle et tandis qu'elle retournait à l'abri, s'agrippa à elle de toutes ses forces. Je demeurai seul sur la rive, devenue subitement déserte. Me sentant abandonné, je m'assis et me mis à pleurer. Je n'arrivais point à comprendre pourquoi ceux de ma horde me fuyaient. Une fois au courant de leur coutume, je compris plus tard la raison de leur attitude. Me voyant surgir en courant de la forêt, ils avaient conclu que j'étais poursuivi par quelques bêtes de proie. Mon apparition sans cérémonie avait été pour eux le signal de la panique. J'observais les ouvertures des cavernes. Bientôt, je me rendis compte que les habitants de la falaise m'épiaient. Des têtes s'avançaient et des cris se répondaient d'une caverne à l'autre. Dans la hâte et la confusion, beaucoup parmi les jeunes s'étaient réfugiés dans d'autres cavernes que la leur. Les mères les appelaient, mais sans les désigner par leur nom, car ils n'en possédaient point, cette distinction des individus n'existant pas encore. Les mères poussaient les clameurs, traduisant leur anxiété et leur colère, et les jeunes reconnaissaient leur voix. Ma mère m'eût-elle appelé ainsi, j'aurais identifié sa voix parmi celle de 1000 autres mères, tout comme elle aurait discerné la mienne entre 1000. Ces appels continuèrent un certain temps, mais les individus étaient trop prudents pour sortir des cavernes et se hasarder sur le sol. Enfin, l'un d'eux osa descendre. Cet homme devait jouer un rôle important dans ma vie, comme il avait déjà exercé son influence sur tous les membres de la horde. Dans les pages de ce récit, je lui donnerai le nom d'œil rouge à cause de ses yeux injectés de sang aux paupières enflammées, qui produisirent sur moi un effet terrible et semblaient proclamer à tous la brutalité de son âme sanguinaire. Véritable monstre sous tous les rapports, il avait une taille gigantesque et pesait plus de 100 kilos. C'était l'homme le plus corpulent de toute notre espèce. Aussi bien parmi le peuple du feu que parmi le peuple des arbres, je n'ai jamais rencontré personne d'aussi fort que lui. Quand, dans un journal, il m'arrive de lire un article détaillé sur un de nos modernes lutteurs ou champions de boxe, Je me demande quelle figure aurait fait le meilleur d'entre eux auprès d'Œil Rouge. Ses chances eussent été plutôt faibles. De sa poigne de fer, le géant lui eût arraché un muscle, voire un biceps, sans le moindre effort. Du revers de son poing fermé, il lui eût écrasé le crâne aussi aisément qu'il eût brisé une coquille d'œuf. D'un coup de pied, ou main postérieure pour plus d'exactitude, il l'eût éventré. D'un tour de main, il lui eût brisé le cou, et d'un seul broiement de mâchoire, il eût en même temps coupé la carotide et la moelle épinière de son adversaire. Ainsi, il faisait des bonds horizontaux de 7 mètres. Notre coquetterie consistait à n'être point trop velu, mais Œil Rouge était couvert de poils au-dessous et au-dessus des bras, de même jusque dans les oreilles. Seule la paume de ses mains, le dessous de ses pieds et la partie de son visage immédiatement au-dessous des yeux étaient dépourvues de poils. Horriblement laid, sa bouche grimaçante et sa lèvre inférieure, toujours pendante, étaient en harmonie avec ses yeux terribles. Tel est le portrait d'Œil Rouge. Avec précaution, il se glissa hors de sa caverne et descendit à terre. Sans s'occuper de moi, il se mit à reconnaître les environs. En marchant, il se courbait en deux et se penchait tellement en avant qu'à chaque pas, il posait ses doigts au sol. Mais alors que la plupart d'entre nous en étaient incapables, il courait admirablement à 4 pattes. En cela encore, Œil Rouge constituait une exception. Cette particularité de marcher à 4 pattes était chez lui un atavisme. Nous étions alors en pleine évolution, passant de la vie arboricole à la vie terrestre. Depuis plusieurs générations, nous subissions une transformation dans notre corps et notre démarche. Mais Œil Rouge appartenait au type le plus primitif de l'époque arboricole. Né dans la horde, il vivait avec nous, mais sa place réelle était ailleurs. Très circonspect et très alerte, il allait d'un côté, de l'autre, de l'espace découvert, jetant un coup d'œil entre les arbres pour essayer de découvrir l'animal qui, à l'idée de tous, m'avait poursuivi. Pendant ce temps, les autres se groupaient à l'entrée des cavernes et surveillaient la rive. Enfin, Œil Rouge comprit qu'aucun danger ne menaçait la horde. Il revenait de l'extrémité de l'espace libre d'où il avait promené son regard le long du fleuve et se dirigeait vers moi, sans avoir l'air de se soucier le moins du monde de ma présence. Il cheminait d'un pas tranquille, lorsque, arrivé à ma hauteur, sans avertissement et avec une rapidité inouïe, il m'asséna un coup sur la tête. Je fus projeté à 4 mètres et retombai sur le sol à moitié assommé. Je me souviens cependant d'avoir perçu, sitôt le coup reçu, des rires sauvages s'élever des cavernes. C'était là une bonne farce, du moins pour l'époque, et le peuple des cavernes exprimait sa joie par une hilarité bruyante. C'est ainsi que je fus reçu au sein de la horde. Dès lors, Œil Rouge se désintéressa de moi et j'eus la liberté de gémir et sangloter tout mon content. Plusieurs femmes, pleines de curiosité, formèrent corps-cercle autour de moi. Je les reconnus pour les avoir rencontrées l'année précédente, alors que ma mère m'avait conduit dans les gorges où croisaient les noisettes. Elles ne tardèrent pas à me laisser seul et furent remplacées par une douzaine de gamins indiscrets et taquins. Ils m'entourèrent, me montrèrent du doigt, me firent des grimaces, tout en me pinçant et en me bourrant de coups de poing. Pris de peur, je les supportai quelque temps. Mais bientôt la colère l'emporta chez moi, et montant les dents et les ongles, je sautai sur le plus audacieux de la bande. Oreilles pendantes en personne. Je l'ai ainsi nommé parce qu'il ne parvenait à dresser qu'une seule oreille. L'autre retombait flasque et privé de mouvement. Un accident quelconque en avait endommagé les muscles et oreille pendante ne pouvait plus en faire usage. Nous nous empoignâmes dans un corps à corps comme deux gamins en train de lutter, nous griffant, nous mordant, nous tirant sur les cheveux, nous roulant tour à tour par terre. Je réussis à sauter sur lui, à califourchon, ce qui me donna l'avantage, mais pas pour longtemps. Il dégagea une de ses jambes et avec son pied, ou plutôt sa main postérieure, me porta un coup formidable dans l'abdomen. Pour ne pas être éventré, je dus le lâcher et me relever, et nous recommençâmes la bataille. L'oreille pendante était d'un an plus âgée que moi, mais j'étais beaucoup plus furieux que lui, et il ne tarda pas à prendre ses jambes à son cou. Je le pourchassai à travers l'espace libre, puis le long d'un sentier conduisant au bord de l'eau. Mais, connaissant mieux que moi les parages, il suivit la berge et remonta par un autre sentier. Il fila en diagonale et s'engouffra dans l'ouverture d'une caverne. Avant de me rendre compte, j'avais bondi après lui dans les ténèbres. La frayeur me saisit. Pour la première fois, je pénétrais dans une caverne. Je me mis à gémir, puis à pousser des cris. L'oreille pendante se moqua de moi et, bondissant sur moi dans le noir, me renversa à terre, mais nullement désireux de risquer un nouveau corps à corps, il s'enfuit. Placé entre lui et l'entrée, je ne le vis point repasser devant moi. Cependant, il me devait plus être dans la caverne. Je tendis l'oreille sans parvenir à déceler où il se trouvait. Très perplexe, je gagnai l'ouverture, m'assis à l'extérieur et demeurai aux aguets. Il ne sortit point de l'orifice, j'en ai la conviction. Pourtant, au bout de quelques minutes, il arrivait près de moi, l'air gouailleur. Je courus après lui et de rechef, il se réfugia dans la caverne. Mais je ne le suivis point et reculai même à une certaine distance pour mieux surveiller l'entrée. L'oreille pendante ne sortit pas davantage. Cependant, il revint ricaner à mon côté, et je le poursuivis une troisième fois jusque dans la caverne. Cette scène se répéta à plusieurs reprises. Enfin, je suivis l'oreille pendante dans la caverne et me mis en vain à sa recherche. Curieux de nature, je n'arrivais pas à comprendre de quelle façon il m'échappait ainsi. Il pénétrait dans son repaire et n'en ressortait pas. Et pourtant, je le retrouvais continuellement près de moi, en train de se moquer. Ainsi, notre lutte se transforma en une partie de cache-cache. Durant tout l'après-midi, avec quelques répits, nous continuâmes ce jeu et une franche camaraderie naquit entre nous. En fin de compte, l'oreille pendante ne s'éloigna plus de moi, et nous demeurâmes ainsi l'un près de l'autre, bras dessus, bras dessous. Un peu plus tard, il me dévoila le mystère de la caverne. Me tenant par la main, il me guida à l'intérieur. Elle communiquait par une fente étroite avec une deuxième caverne, d'où nous regardâmes l'espace libre. À présent, nous étions de très bons amis. Quand les autres gamins revinrent me provoquer, il se rangea de mon côté et commença l'attaque. Nous leur distribuâmes une telle volée que bientôt on nous laissa en paix. L'oreille pendante me fit visiter le village. Il ne pouvait guère m'instruire des mœurs et coutumes, son vocabulaire trop restreint ne s'y prêtant point, mais j'observais ses actes et en fis bon profit. Il me conduisit dans l'espace libre situé entre les cavernes et le fleuve, puis dans la forêt ou dans un endroit herbeux parmi les arbres, nous déjeunâmes de carottes filandreuses. Ensuite, nous allâmes nous désaltérer au fleuve et reprîmes le sentier conduisant aux cavernes. En remontant cette sente, je revis œil rouge. Le premier geste d'oreille pendante fut de reculer du côté et de se blottir au pied du talus. Instinctivement, je l'imitais, puis je relevai la tête pour voir la cause de notre frayeur. œil rouge, déambulait au milieu du sentier, l'air farouche et le sourcil froncé au-dessus de ses yeux enflammés. Et je remarquai que tous les enfants fuyaient devant lui comme nous l'avions fait. Quant aux grandes personnes, elles le regardaient s'approcher avec des regards pleins d'inquiétude et se rangeaient sur son chemin pour lui céder la place. Avec le crépuscule, l'espace libre devint désert. Les membres de la horde s'étaient réfugiés dans les cavernes. Oreille pendante me guida vers notre lit. Tout en haut de la falaise, au-dessus des autres cavernes, nous gagnâmes une petite crevasse invisible d'en bas. Oreille pendante s'y glissa, je le suivis avec difficulté, tant l'ouverture en était étroite, et je me trouvais dans une grotte très basse, mesurant à peine 2 pieds de hauteur et 3 pieds sur 4 de superficie. Serrés l'un contre l'autre, nous dormîmes toute la nuit. Chapitre 6. Notre caverne. Rien d'étonnant que les plus hardis d'entre les gamins de la horde jouassent dans les cavernes à larges ouvertures. Je tardais pas à apprendre qu'elles étaient inhabitées. Du moins, personne n'y dormait la nuit. Toutes les cavernes aux ouvertures en fente servaient d'abri nocturne, et plus l'entrée était étroite, plus on les recherchait. Et cela par crainte des bêtes de proie qui, nuit et jour, menaçaient notre vie. Dès le matin, qui suivit la première nuit que je passais en compagnie d'oreilles pendantes, il me fut donné d'apprécier l'avantage des cavernes à étroit orifice. L'aube venait d'apparaître lorsque Dents de Sabre, le tigre, s'avança sur la rive. 2 membres de la horde étaient déjà levés et fuyaient devant lui. Soit qu'ils fussent pris de panique, soit que le fauve se trouvât trop près d'eux pour qu'ils le pussent chercher refuge en un endroit plus sûr de la falaise, tous deux s'engouffrèrent dans la caverne à large ouverture où Oreille Pendante et moi avions la veille joué à cache-cache. Qu'advint-il à l'intérieur? Oh, il est difficile de le dire, mais tout porte à croire que les 2 hommes se glissèrent par la fente qui réunissait cette grotte à sa voisine. L'étroitesse de cette fente n'ayant pu permettre le passage à Dents de Sabre, il sortit furieux par là où il était entré. De toute évidence, sa chasse avait été infructueuse et il espérait se restaurer à nos dépens. Dès qu'il aperçut les 2 fugitifs à l'entrée de l'autre caverne, il s'élança en avant, mais les autres franchirent le passage et gagnèrent la première caverne. Le tigre, plus hargneux que jamais, reparut en découvrant ses terribles crocs. Toute la horde se mit à faire un vacarme infernal. Du haut en bas de la falaise, nous nous pressions à l'ouverture des cavernes et sur les rebords les plus saillants de la roche, jacassant et criant sur tous les tons, faisant les grimaces les plus effarantes et montrant les dents. Notre ire également égalait celle de Dents de Sabre, à la différence qu'elle se mêlait à la peur. Je me souvins que je grimaçais et hurlais comme les plus enragés d'entre nous, non seulement parce qu'ils me donnaient l'exemple, mais parce que l'instinct me poussait à agir de la même manière qu'eux. Les poils hérissés, je me sentais en proie à une colère féroce. Pendant un moment, Dents de Sabre ne fit qu'entrer et sortir de la première puis de la seconde grotte, tandis que les 2 hommes réfugiés à l'intérieur l'évitaient en passant de l'une dans l'autre par la fente de communication. De notre côté, nous ne perdions pas de temps. Chaque fois que le tigre paraissait à l'extérieur, nous le bombardions à coups de pierre. Tout d'abord, nous nous contentâmes de les laisser choir sur lui, puis nous les lançâmes de toute la force de nos muscles. Cette attaque imprévue détourna vers nous l'attention de Dents de Sabre et intensifia encore sa fureur. Il abandonna la poursuite des 2 autres et se mit à escalader la falaise, s'accrochant à la roche qui s'effritait et grinçant des dents. À cet effrayant spectacle, tous jusqu'au dernier, nous rentrâmes dans nos cavernes. Je puis l'affirmer parce que je me penchai au dehors et vis le rocher désert. Dents de sabre perdaient des pieds et glissaient vers le bas. Je poussai une exclamation pour ranimer notre courage. De nouveau, la falaise se couvrit de la horde hurlante, lançant des pierres avec un redoublement d'énergie. Fou de rage, Dent de Sabre monta à l'assaut, et une fois, avant de retomber, il atteignit l'ouverture d'une des cavernes les plus basses, mais ne put y pénétrer. Chaque tentative de Dent de Sabre faisait déferler sur nous une vague de terreur. Au début, nous nous réfugiâmes presque tous à l'intérieur des cavernes, à l'exception de quelques-uns qui, demeurés au dehors, le bombardaient de pierres. Mais bientôt nous sortîmes pour renforcer le bombardement. Jamais Dent de Sabre n'avait essuyé de la part d'êtres si petits et si faibles pareille humiliation. Tourné vers nous, dans une attitude grotesque, il nous regardait, les crocs découverts, fouettant l'air de sa queue et happant les cailloux qui tombaient à côté de lui. À l'instant précis où je lançais une pierre dans sa direction, l'animal leva la tête et le reçut en plein sur le mufle. Rugissant de colère et de douleur, il bondit en l'air et sauta les quatre pattes à la fois. Accablé sous la défaite, il recouvra néanmoins sa dignité et s'éloigna bientôt d'un pas solennel sous l'avalanche de nos projectiles. Il fit halte au milieu de l'espace découvert et nous décocha un regard avide, chargé de haine et de dépit. Il lui répugna visiblement de s'en aller, le ventre vide, et de renoncer aux si plantureux repas que nous représentions, acculés sur notre rocher, mais inaccessibles. À le voir, nous éclatâmes de rire, d'un rire bruyant et moqueur. Or, les animaux détestent la moquerie. Rien n'excite plus leur colère. Notre hilarité irrita à tel point Dent de Sabre qu'il se rua de nouveau vers la falaise, poussant un gémissement. En réalité, nous n'en désirions pas davantage. La lutte se transformait en un jeu auquel nous prenions un immense plaisir. Cette nouvelle attaque dura peu. Dent de Sabre ne tarda pas à reprendre son bon sens et à fuir cette grêle de pierre. Je conserve très nette la vision du tigre à la lisière de la forêt. Une de ses paupières était enflée au point qu'il ne pouvait l'ouvrir. Il tournait vers nous sa gueule. Ses lippes plissées découvraient jusqu'à la racine ses longs crocs aigus. Son poil se hérissait, il fouettait l'air de sa queue. Il fit entendre un dernier rugissement, puis se déroba à notre vue parmi les arbres. Alors nous quittâmes tous nos trous, Jacques assent à qui mieux, et nous examinâmes les traces laissées par les griffes du fauve sur la roche friable de la falaise. Les deux fuyards, pleins de fatuité, étaient sortis de leur double caverne. Nous les entourâmes en leur prodiguant notre admiration. Survint la mère du plus jeune, à peine adolescent, qui tomba sur lui à bras raccourcis. En proie à une rage folle, elle cria comme un démon en le giflant et en lui arrachant les cheveux. C'était une forte gaillarde, au corps velu, et la correction qu'elle infligea à son fils fit les délices de la horde. Nous esclaves-femmes, appuyés les uns contre les autres, en roulant sur le sol dans notre accès de gaieté. Malgré la peur qui dominait alors l'existence, les hommes aimaient à rire. Nous raffolions de la plaisanterie et notre hilarité devenait parfois homérique. Une scène amusante, le moindre incident comique, même le plus grossier, suffisait à nous épanouir la rate et à déchaîner des convulsions. Oh, je vous prie de le croire, nous savions rire en ces temps-là. Nous accueillîmes toutes les bêtes féroces qui assaillaient notre village de la même manière dont nous avions reçu Dent de Sabre. Nous réservions à notre usage les sentiers et les endroits où nous buvions au bord du fleuve, pourchassant impitoyablement ceux qui s'y hasardaient ou erraient aux environs. Nous n'hésitions pas à nous défendre contre les grands carnassiers qui finirent par nous laisser en paix. Nous n'étions certes pas des lutteurs comme eux, mais grâce à notre ruse, à notre lâcheté et aussi à la terreur continuelle qui nous obsédait à chaque instant, nous survivions dans ce milieu terriblement hostile du monde primitif. Oreille Pendante devait être mon aîné d'un an. Il ne possédait aucun moyen de m'apprendre sa courte histoire, mais comme je ne vis jamais sa mère, j'ai tout lieu de supposer qu'il était orphelin. Dans notre horde, la paternité comptait peu. Le mariage n'existait qu'à l'état rudimentaire et les couples se séparaient après une querelle. L'homme moderne, avec son institution du divorce, agit de même, mais légalement. Faute de loi, seule la coutume réglait nos actes. Or, sur ce sujet, la coutume était plutôt confuse. Néanmoins, ainsi que le montrera la suite de ce récit, nous avions de vagues tendances vers la monogamie. Elle devait, comme on le sait, conférer plus tard force et puissance aux tribus qui l'adoptèrent. Même à l'époque de ma naissance, il existait plusieurs ménages fidèles qui vivaient dans les arbres voisins de celui de ma mère. Mais l'existence au sein de la horde ne se prêtait guère à la monogamie. C'est sans doute pourquoi les couples fidèles s'en éloignaient. Pendant plusieurs années, ils demeuraient unis, mais lorsque l'un ou l'autre des conjoints mourait ou était dévoré par les bêtes de proie, le survivant trouvait invariablement un nouveau compagnon. Une chose m'intrigua au plus haut point durant les premiers jours qui suivirent mon arrivée dans les cavernes. Une peur inexplicable planait sur toute la horde. Dès l'abord, elle me parut reliée à une idée d'orientation. La horde redoutait le nord-est et vivait dans une appréhension perpétuelle de ce point de l'horizon. Plus fréquemment que de tout autre côté, les membres de la horde se tournaient vers le nord-est, et alors une crainte extrême se peignait sur leur visage. Quand Oreille Pendante et moi allions dans cette direction pour manger les carottes aux racines fibreuses, qui à cette saison pullulaient, ils devenaient d'une timidité étonnante. Ils se contentaient des rebuts, des grosses carottes coriaces et des petites toutes en fibres, plutôt que de s'aventurer un peu plus loin où elles étaient encore intactes. Quand je m'aventurais un peu trop à son gré, il me grondait et me querellait, laissant entendre qu'un grave péril nous menaçait de ce côté. Mais l'indigence de son vocabulaire ne lui permettait pas de me faire comprendre la nature de ce péril. Je fis ainsi plus d'un excellent repas, malgré ses invectives. Comment pouvais-je deviner de quoi il s'agissait ? Je me tenais toujours en alerte, mais je ne discernais aucune raison de s'alarmer. Cependant, je calculais toujours la distance entre moi et l'arbre le plus proche, où je comptais me réfugier avant d'être capturé par poil fauve ou dents de sabre, si l'un ou l'autre surgissait brusquement. Un jour, vers la fin de l'après-midi, un grand tumulte s'éleva dans le village. La horde semblait hantée d'une idée fixe, la peur. Les habitants des cavernes, sortis de leur repère, fourmillaient sur le flanc de la falaise et regardaient le nord-est. Il montrait du doigt vers ce point-là. Ignorant ce qui se passait, je grimpais brestement jusqu'à ma petite caverne au haut de la falaise, avant de me retourner pour me rendre compte du danger. De l'autre côté du fleuve, au loin vers le nord-est, mes yeux virent pour la première fois le mystère de la fumée, le plus grand animal que j'eusse contemplé jusque-là. Il me produisit l'effet d'un serpent monstrueux, dressé sur sa queue, élevant la tête par-dessus les arbres et se balançant d'avant en arrière. Cependant, d'après l'attitude de mes compagnons, je compris bientôt que la fumée en elle-même ne constituait pas un danger. Il semblait la redouter comme l'indice d'un autre péril. Mais lequel ? J'étais incapable de le deviner. Et eux n'auraient su me le dire. Je ne tardais pas à l'apprendre et à le craindre comme un fléau plus terrible que Poil Fauve, que le vieux dent de sabre et que les reptiles eux-mêmes. Chapitre 7. Dents brisées. Dents brisées était un autre gamin qui vivait seul. Sa mère habitait les cavernes, mais deux autres enfants étant nés après lui, il avait été mis dehors et obligé de subvenir à ses propres besoins. Pendant les quelques jours précédents, nous avions assisté à cette expulsion qui nous avait fort divertis. Dents brisées refusait de partir et chaque fois que sa mère quittait la caverne, il revenait s'y faufiler. Lorsque, à son retour, elle l'y retrouvait, elle s'abandonnait à des accès de fureur extrêmement comiques. La moitié de la horde prit l'habitude de se rassembler pour jouir du spectacle. D'abord, de l'intérieur de la caverne sortaient des grondements et des cris. Puis on entendait le bruit de la correction et les gémissements de dents brisées. Ensuite, les deux cadets aidaient leur mère à battre leur frère, et finalement, comme sous l'éruption d'un volcan en miniature, dents brisées étaient projetées hors de la grotte. Au bout de quelques séances, son départ fut un fait accompli. Une demi-heure durant, il pleura de chagrin au centre de l'espace découvert, sans que personne fît attention à lui. Il se décida alors à venir habiter avec Oreille Pendante et moi. Notre caverne était bien étroite, mais en se serrant un peu, il y avait place pour trois. Je ne me souviens pas que Dents Brisées ait passé plus d'une nuit en notre compagnie. L'accident qui va suivre a dû, par conséquent, arriver tout de suite après. Il se produisit au milieu de la journée. Dans la matinée, nous avions mangé notre contant de carottes, puis tout en jouant, nous nous étions aventurés jusqu'aux grands arbres de la forêt. Je ne pus m'expliquer comment Oreille Pendante oublia sa prudence coutumière. Sans doute se laissa-t-il distraire par le jeu. Nous nous poursuivions de branche en branche, franchissant d'un bond une distance de 3 mètres et nous laissant choir d'une hauteur de 7 à 8 mètres avec une remarquable aisance. Je frémis en songeant aux sauts que nous faisions. En devenant plus vieux et plus lourd, nous apprîmes à être prudents, mais à cet âge, nous n'étions que nerfs et tendons et nous ne reculions devant rien. Dents Brisées déployait une agilité extraordinaire dans ce sport. Il se laissait prendre moins souvent qu'aucun de nous. Il exécutait un tour difficile que ni Oreille Pendante ni moi n'arrivions à imiter. À vrai dire, nous n'osions pas nous y risquer. Lorsqu'il arrivait à l'un de nous de le prendre, Dents Brisées courait jusqu'au bout de la branche la plus haute d'un arbre, à plus de 20 mètres du sol, et rien ne venait amortir la chute. Mais environ 7 mètres au-dessous et 5 mètres en dehors de la ligne perpendiculaire pendait une grosse branche d'un arbre voisin. Quand nous le poursuivions sur sa branche élevée, Dents Brisées se tournait vers nous et se mettait à se balancer, ce qui naturellement retardait notre avance. Mais ce balancement avait un autre but. Dents Brisées prenait ainsi son élan pour sauter en arrière, et au moment précis où nous allions enfin le capturer, il se laissait partir. La branche secouée lui servait comme une sorte de tremplin, le projetait en arrière et, durant la chute, il faisait un rétablissement de côté afin de se trouver face à la branche où il comptait choir. Celle-ci ployait sous le choc et il se produisait parfois un craquement menaçant, mais elle ne se brisait point, et entre les feuilles nous distinguions le visage de Dents Brisées, levé vers nous et grimaçant de joie triomphante. J'étais le poursuivant la dernière fois que Dents Brisées exécuta ce tour de force. Il venait d'atteindre l'extrémité de la branche et commençait son balancement, tandis que j'avançais vers lui, quand soudain Oreille Pendante nous lança un cri d'alarme. Baissant les yeux, je l'aperçus tapis à la fourche principale de l'arbre. D'instinct, je m'aplatis sur la grosse branche où je me trouvais. Dents Brisées cessa de se balancer, mais la branche continuait à s'agiter et à l'entraîner de haut en bas dans le bruissement des feuilles. J'entendis le craquement d'une brindille sèche, et regardant au-dessous de moi, j'aperçus le premier homme du feu. Il rampait avec précaution sur le sol, les yeux levés dans la direction de l'arbre. Tout d'abord, je le pris pour un animal sauvage, car il portait un morceau de peau d'ours sur les épaules et autour de la ceinture. Puis je distinguais ses mains, ses pieds et les traits de son visage. Il ressemblait fort à ceux de notre espèce, à la différence qu'il était moins velu et que ses pieds avaient moins l'aspect de mains que les nôtres, tandis qu'à notre tour, nous étions moins velus que le peuple des arbres. L'idée surgit soudain à mon esprit. J'avais devant les yeux la terreur du nord-est, dont la fumée mystérieuse annonçait la présence. J'en demeurais surpris. En effet, il ne paraissait pas terrible. Œil Rouge ou n'importe quel homme fort de notre tribu était capable de se mesurer avec lui. En outre, il était vieux, tout ridé par l'âge, et la toison de son visage était grise. Lorsqu'il se releva pour marcher, je remarquai qu'il boitait d'une jambe. Nous pouvions le dépasser à la course et grimper plus vite que lui dans les arbres. Jamais ne nous attraperait, aucun doute là-dessus. Mais il portait dans sa main quelque chose que je voyais pour la première fois, un arc et une flèche. À cette époque, ces objets ne signifiaient absolument rien pour moi. Comment aurais-je pu savoir que la mort se dissimulait dans un morceau de bois courbé? Oreille Pendante, lui, ne l'ignorait point. De toute évidence, il avait déjà vu des hommes du feu et connaissait un peu leur manière d'agir. L'homme du feu le regarda et se mit à décrire un cercle autour de l'arbre. De son côté, Oreille Pendante, à hauteur de la fauche principale, contourna le tronc en ayant soin de se cacher afin de maintenir toujours l'épaisseur du bois entre lui et l'homme de feu. Brusquement, celui-ci tourna en sens inverse. Oreille Pendante, pris au dépourvu, se hâta de l'imiter, mais ne réussit point à se mettre à l'abri avant que l'homme de feu eût fait vibrer son arc. La flèche monta en l'air, manqua à Oreille Pendante et alla frapper une branche puis retomba sur le sol. Je dansais de joie sur mon perchoir. Voilà enfin un sport. L'homme du feu lançait un objet à Oreille Pendante, comme nous le faisions souvent entre nous en guise d'amusement. Le jeu continua quelques minutes encore, mais Oreille Pendante ne s'exposa pas une seconde fois. Alors l'homme du feu abandonna la partie. Penché sur ma branche horizontale, je me mis à jacasser pour attirer son regard. Je voulais jouer, moi aussi. Je désirais que l'homme du feu essayât de m'atteindre avec cet objet inconnu de moi. Il me vit, mais ne fit aucun cas de ma personne, concentrant toute son attention sur Dents Brisées, qui, à son corps défendant, se balançait toujours au bout de la branche. La première flèche partit. Dents Brisées hurla de souffrance et de frayeur. Le trait l'avait touché. Du coup, la situation prenait une tournure différente à mes yeux. Je perdis aussitôt l'envie de jouer. Tout tremblant, je m'aplatis sur la branche. Une seconde, puis une troisième flèche montèrent vers l'arbre et manquèrent Dents Brisées, sifflèrent à travers les feuilles et, dérivant une courbe dans leur vol, tombèrent à terre. De nouveau, l'homme du feu tendit son arc. Il changea de position et recula de quelques pas, puis la corde vibra, la flèche monta, et Dents Brisées, poussant un cri horrible, fut délogé de la branche. Il tournoya plusieurs fois sur lui-même, tout bras et tout jambes, semblait-il, et la flèche plantée dans sa poitrine apparaissait et disparaissait à chaque tour de son corps. Tout en bas, à 25 mètres au-dessous de la planche où il se balançait, Dents Brisées s'écrasa sur le sol avec un bruit sourd, Son corps rebondit légèrement, puis ne bougea plus. Cependant, il vivait encore, car au bout d'un instant, il remuait et se tordait de douleur, grattant la terre des mains et des pieds. Je vis alors l'homme du feu saisir une énorme pierre et lui en marteler la tête et je ne me souviens plus de rien. Durant mon enfance, à cette partie de mon rêve, je me réveillais toujours en poussant des cris de terreur et retrouvais souvent ma mère ou ma nourrice au chevet de mon lit. Anxieuse et effrayée, elle me caressait les cheveux et s'efforçait de me rassurer en me disant qu'elles étaient là, que je n'avais rien à craindre. Mon rêve suivant, dans l'ordre où il se succédait, commence inévitablement par la fuite à travers la forêt en compagnie d'oreilles pendantes. L'homme du feu, dents brisées et l'arbre tragique ont disparu à jamais. Oreilles pendantes et moi, pris de panique, courons entre les arbres. Ma jambe droite me fait souffrir d'une façon atroce. Traversant ma chair de part en part, restait plantée la flèche de l'homme de feu. Non seulement le déchirement des muscles me cause une intolérable douleur, mais la flèche gêne ma course et il m'est impossible de suivre oreilles pendantes. Je dus renoncer à le rattraper et me blottis dans la fourche d'un arbre. Oreilles pendantes continuait son chemin. Je l'appelais d'un ton plaintif. Il s'arrêta pour regarder en arrière. Alors il revint vers moi, monta jusqu'à la fourche et examina la flèche. Il essaya de la retirer, mais d'un côté les chairs résistaient au passage des barbes de la pointe, et de l'autre à celui de la tige empennée. Ses efforts me faisaient tellement souffrir que je le priais de céder. Pendant un moment, nous demeurâmes tous deux au creux de l'arbre. Oreilles pendantes, inquiet et pressé de fuir, jetait des regards inquiets d'un côté et de l'autre, tandis que je sanglotais doucement. De toute évidence, Oreilles pendantes avait une envie folle de se sauver, et le fait qu'il demeurât près de moi, malgré sa peur, reste à mes yeux un symbole de l'altruisme et de la camaraderie qui ont contribué à faire de l'homme le plus puissant d'entre les animaux. Une fois encore, Oreilles pendantes essaya de retirer la flèche, mais je l'arrêtai fou de douleur. Alors il se baissa et se mit à ronger la tige de la flèche entre ses dents, tout en tenant fermement l'autre bout de ses deux mains afin de l'empêcher de remuer dans la blessure, et je m'accrochai à lui de toutes mes forces. Souvent, il m'arrive de méditer sur cette scène. Nous voici deux petits hommes dans l'enfance de la race, l'un dominant sa crainte et réprimant son instinct de fuite pour rester près de l'autre et le secourir. Alors se dresse devant moi tout ce qu'annonçait dans un lointain avenir l'attitude de mon ami. Je vois Damon et Pythias, les équipages des bateaux de sauvetage, les infirmières de la Croix-Rouge, les martyrs et les défenseurs des causes perdues. Le père Damien et le Christ lui-même, ainsi que tous les hommes aux puissantes statures qui doivent leur force spirituelle aux êtres primitifs, tels qu'oreilles pendantes, grandes dents et autres obscurs habitants du monde préhistorique. Quand oreilles pendantes eut, à l'aide de ses dents, arraché la pointe de la flèche, la tige se retira facilement. Je me levai et fis quelques pas, mais cette fois ce fut mon camarade qui m'arrêta. Ma jambe ruisselait de sang. Quelques-uns des petits vaisseaux s'étaient sans doute rompus. Courant jusqu'au bout d'une branche, oreille pendante cueillit une poignée de feuilles vertes dont il bourra la plaie. Bientôt le sang cessa de couler et ensemble nous continuâmes notre route pour regagner l'abri sûr des cavernes.